9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bombel.
Et dans Culture Média, Philippe, on est très heureux d'accueillir Joël Dicker.
Bonjour Joël Dicker.
Bonjour.
Vous avez seulement 34 ans, je me suis renseigné, 35 le 16 juin. Mais jusqu'à l'instant, dernier instant ultime, vous avez 34 ans pour dire que vous êtes, avec cet âge si jeune, connu dans le monde entier pour votre deuxième roman, La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui s'est vendu à près de 5 millions d'exemplaires sur la planète, qui est devenue une série internationale produite par la MGM avec Patrick Dempsey, signé Jean-Jacques Hano. Je vais également citer le livre des Baltimore et La disparition de Stéphanie Meiler. Autre actualité, votre nouveau roman très attendu. Il s'appelle L'énigme de la chambre 622. C'est aux éditions de Fallois. Je vais commencer par l'histoire, ou plutôt les histoires, car il y en a plusieurs imbriquées. Et je vous laisse terminer. En gros, le narrateur et écrivain, il s'appelle Joël, il habite à Genève. À la suite d'une déception amoureuse, il part se réfugier dans un palace d'une station de ski suisse à Verbier. Et là, il remarque que sa chambre, la 623, n'est pas collée à la 622, mais à la 621 bis. Et le mystère commence ici, parce qu'évidemment, il pose la question au concierge de l'hôtel. Et là, c'est à vous.
Et le concierge lui dit 621 bis parce que c'est comme ça, c'est l'hôtel qui a été fait comme ça, une erreur dans la construction. Mais l'écrivain, qui est un emmerdeur, dit je ne crois pas à cette réponse. Et il commence à gratter un peu et il se rend compte qu'il y avait bien une chambre 622. La chambre 621 bis remplace la chambre 622. Et la chambre 622 a été le théâtre d'un meurtre des années auparavant, meurtre jamais résolu. Et l'écrivain, avec une cliente de l'hôtel, va évidemment investiguer et remonter la piste de ce crime et découvrir ce qu'il s'est passé dans la chambre 622.
Alors je me suis dit, ce type-là a quand même beaucoup, beaucoup de chance qu'il s'appelle Joël comme vous. Cette rencontre, vous le dites, c'est Scarlett, c'est sa voisine de chambre de l'écrivain. Mais l'écrivain a une histoire d'amour ratée avec sa voisine de palier.
Oui.
Ça vous arrive souvent dans la vie ?
Il emballe partout, sur le balcon, à l'hôtel. Non, mais, ça... non, mais c'est un écrivain qui ne sort pas beaucoup de chez lui.
Ouais.
Donc, si vous voulez, il est sa réalité, c'est son bureau, c'est son balcon. C'est-à-dire que le balcon sur lequel il sort, c'est sa fenêtre sur l'extérieur, ouais, sur la réalité.
Et, non, mais ça, j'ai bien compris. Mais encore faut-il qu'il y ait, sur le balcon d'à côté, une jeune femme célibataire, oui, et à son goût, et qui elle-même trouve l'écrivain à son goût.
Et les romans sont bien faits.
Ah oui, mais... mais pas presque trop. Ça se passe en Suisse, vous êtes Suisse, un des pays les mieux faits au monde. Et pour la première fois, la Suisse est le décor d'un de vos romans, dans un milieu très, très fermé, de la banque. Pourquoi ce milieu de la banque ? C'est un milieu que vous connaissez très bien ou pas du tout ?
Non, que je connais pas. Pourquoi la banque ? En fait, je travaille sans plan. Donc, il n'y a pas une immédiateté où je me dis il faut qu'il y ait une banque, il faut qu'il y ait ci ou ça. Je commence mon livre sans savoir très bien ce qui se passe. Et je suis assez vite arrivé dans une histoire où j'avais envie d'une histoire de transmission, une histoire avec une entreprise et un héritage, avec un fils biologique, un fils spirituel dont le président ne saurait pas très bien à qui confier les clés de la boîte. Et je me suis dit, mais cette entreprise, qu'est-ce qu'elle peut être ? J'avais besoin d'une entreprise avec des enjeux financiers qui soit possédée par la même famille depuis des siècles. Et assez vite, je me suis dit, une banque, c'est idéal, surtout les banques privées, parce qu'elles ont un fonctionnement qui leur est propre, dont on ne sait pas très bien comment il marche. Et avoir comme ça quelque chose d'un peu opaque et pas très limité, pour un écrivain, c'est génial, parce que vous en faites ce que vous voulez.
Et alors, vous avez travaillé pour décrire les us et coutumes à la manière de Tom Wolfe, ou alors, au contraire, vous avez inventé ?
Non, moi j'invente. D'ailleurs, la banque, c'est pas un livre qui raconte vraiment le fonctionnement de la banque privée suisse. Hein. C'est la banque privée, là, dans ce roman, elle est vraiment là pour le décor. C'est le décor du livre. Ouais. Il s'y passe des choses liées à l'intrigue, des événements de l'intrigue, mais c'est pas du tout. Je raconte pas du tout comment ça fonctionne.
Et le service de contre-espionnage suisse, le P30 ou la P30, ça existe pour de vrai ou pas ?
Non, ça n'existe pas pour de vrai. Mais on ne va pas raconter trop le livre.
Non. Mais là, j'étais. Oula, je peux raconter beaucoup, beaucoup plus loin si vraiment vous me cherchez. C'est un roman avec une intrigue très complexe, parfois il faut vous suivre. Exemple de phrase, écoutez bien cette phrase. Elle composa aussitôt, le type s'appelle Macaire. Macaire, c'est un prénom, sinon on ne comprend pas. Elle composa aussitôt le numéro de portable de Macaire et l'intercepta alors qu'il arrivait au 5e étage de l'hôtel, escorté par le concierge qui l'avait convaincu de l'emmener ouvrir la suite de Levovitch. Waouh, j'ai dû relire 3 fois pour comprendre. Et puis parfois, vous faites des flashbacks et des flash-forward.
Oui.
Un flashback, c'est on va en avant, mais flash-forward, c'est on va vous dire ce qui va se passer dans quelques temps.
Absolument.
Celui-ci m'a laissé perplexe, il est page 229. Genève, 15 ans plus tôt, avril, 3 mois après le grand week-end. Waouh, on est quand ?
On est 3 mois après le grand week-end.
Oui, mais 15 ans plus tôt.
15 ans plus tôt.
Je me suis dit, ce type est fou. Également, j'ai appris des expressions grâce à vous.
Oui.
Exemple, Macaire, c'est vous qui l'écrivez, Macaire décocha en regard noir à son cousin. Ah, ce sale petit lèche-vagin.
Ouais.
C'est une expression suisse ?
Non, je crois que c'est français.
J'avais jamais entendu.
C'est vrai ?
Non.
Les livres sont là pour ça, pour vous apprendre quelques bonnes expressions. Donc voilà, vous pourrez dire dans les dîners en ville, si quelqu'un vous fâche, vous pouvez dire ah, « sale petit lâche vagin ».
Oh oui,
c'est
vraiment.
Une expression.
Ouais, vraiment.
C'est facile à placer, ça.
Comment ? Oui, justement, c'est à vous maintenant. On marque une pause avec Joël Dicker. Allez-y, je vous laisse, Céline, allez-y.
Qui est notre invité avec qui on parle de son nouveau roman, L'énigme de la chambre 622. On y revient dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
L'énigme de la chambre 622, c'est le nouveau roman de Joël Dicker qui est avec nous pour en parler ce matin. Philippe, roman sorti aux éditions de Fallois.
Alors c'est un roman, c'est une fiction, mais de larges pages sont consacrées à votre éditeur, Bernard de Fallois. C'est édité chez de Fallois. Bernard de Fallois n'est plus de ce monde, c'est un personnage truculent. D'un mot, qui était Bernard de Fallois ?
Bernard de Fallois a été l'un des plus grands éditeurs de ces 50 dernières années. Un des monstres de l'édition française. Il a édité tout le monde, il a présidé au destin de nombreux groupes éditoriaux français. Et en 87, à sa retraite, il a décidé de monter sa maison. Sans plus aucun enjeu, sa carrière était faite. Il gardait son nom, son aura. Il a décidé de publier ses amis et les gens qu'il aimait bien. Et j'ai eu la chance de croiser son chemin en juillet 2011. Et ça a d'abord très mal commencé parce qu'il ne voulait pas publier mon premier roman, Les derniers jours de nos pères. Et donc on a commencé sur des rapports un peu difficiles.
Voilà, juste un détail quand même dingue, parce que c'était un éditeur actif qui adorait son métier. Vous racontez qu'il appelait les libraires en personne.
Oui, alors quand il a fait le succès de Harry Quebert, qui est paru à la dernière minute, début juillet 2012, alors que le livre doit paraître au mois de septembre, donc rien n'est prêt. Et je lui dis, mais Bernard, comment est-ce que vous allez faire ? Il me dit, je vais téléphoner. Et il a téléphoné à quasiment tous les libraires de France, en tout cas des centaines de libraires. Il les appelait tous les jours en disant, bonjour, c'est de Fallois. Et j'en disais, de Fallois, le grand éditeur, oh, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, je vous envoie un livre et j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Et c'était ça sa grande force. C'est pas qu'il disait, c'est formidable, c'est extraordinaire, et c'est pas qu'il imposait son point de vue, c'est qu'il arrivait à amener les gens avec lui en les impliquant. Et les libraires, grâce à ça, ont tous lu mon livre. En 2 mois, il a fait lire ce livre à des centaines de libraires. Et ces libraires se sentaient très concernés parce qu'ils disaient, mais tiens, ça c'est le livre que Bernard m'a confié à moi et j'ai dû le lire et je lui ai fait un rapport. Et donc il y avait ce rapport comme ça. C'était comme une équipe. Hein. C'était assez impressionnant.
Non, mais ce qui est complètement dingue, c'est d'aller au charbon lui-même, le temps que ça prend. Même si vous faites 5 minutes avec un libraire, mais que vous devez en appeler 500, ouais. C'est un temps complètement fou. Une autre fois, grande occasion, vous racontez, Bernard de Fallois donc vous invite dans un très grand restaurant parisien, le Divelec, au Champagne, et là, il vous annonce tout sourire.
Je lève mon verre au livre que je ne publierai pas.
Il ne vous publie pas.
Il ne me publie pas parce que je ne veux pas moi. C'est-à-dire que c'était juste avant Harry Quebert et lui voulait absolument publier Harry Quebert et moi je disais mais non, mais ça ne va pas marcher, ça ne marche pas. Mais si, vous verrez. Et puis finalement, pour me convaincre, il a fait de la psychologie à l'envers. Il m'a dit, très bien, non, je comprends, vous ne voulez pas. Vous, très bien, non, non, non. En tout cas, merci. Ah, merci Joël parce que j'ai aimé lire ce livre. Merci. Et donc là, il m'emmène déjeuner. Il lève sa verre de champagne comme ça et dit au livre que je ne publierai pas. Et là, je me suis dit, merde, peut-être que je fais quelque chose, je fais une connerie, peut-être que je devrais peut-être dire oui.
Un mot de la série La vérité sur l'affaire Harry Quebert, puisque vous en parlez, Spielberg était intéressé et il s'est fait retoquer par Bernard de Fallois. Mais ce qui est le plus dingue, c'est raconter pour quelle raison.
Mais Bernard de Fallois avait raison, c'est-à-dire que Steven Spielberg et sa boîte voulaient acheter les droits. Mais Bernard disait, oui, mais attention, les grands studios, il faut être sûr qu'ils sont vraiment très intéressés, qu'ils vont se passionner pour le projet, qu'ils vont le faire. Et pour lui, la seule façon d'être certain que quelqu'un était passionné, c'était qu'il vienne à Paris déjeuner avec lui. Et comme personne n'a voulu venir le voir pour déjeuner à Paris, il a dit, eh bien non.
Voilà.
Vous n'êtes pas assez passionné.
On déjeune avec Spielberg ou rien. Alors, non seulement on apprend la vérité à la fin de votre livre, normal, c'est dans une enquête, c'est idiot de donner le résultat à page 22, mais on met même beaucoup de pages, les 2/3 du roman, pour apprendre qui a été tué dans cette énigme de la chambre 622. Et vous dites que vous-même, c'est ça que je trouve dingue, vous l'avez dit tout à l'heure, vous écrivez sans plan, vous-même, au début du roman, vous ne saviez pas qui allait mourir dans cette chambre.
Exactement. Donc j'ai commencé, j'écris ce livre comme vous le lisez.
Ouais.
Je commence avec une envie, un jour, un matin, dans la neige, un palace de montagne, il fait froid, dedans il fait chaud, on est bien. Un employé ouvre la porte, oh, un mort sur la moquette.
Ouais.
Et ça commence comme ça, c'était mon envie.
J'ai compris ça.
Je me suis dit, qui meurt ?
Ouais.
J'ai encore pas de livre, j'ai pas de personnage, j'ai rien. Donc je commence à raconter cette histoire, je crée les personnages. Et à fur et à mesure que les personnages sont là, je me dis, est-ce que c'est lui ? Non, mais lui, je l'aime bien. Est-ce que c'est elle qui est morte ? Non, mais elle, je l'aime bien aussi. Alors peut-être que c'est lui. Et il me faut 300 pages pour finalement décider qui est la victime.
Oui, mais comment vous faites si vous vous rendez compte que ça ne tient pas par rapport à ce que vous avez raconté précédemment ? Parce qu'il faut une cohérence dans un polar.
Et ben, une fois que je suis à la page 300 et que je sais qui est mort, je reviens en arrière pour être bien sûr que tout fonctionne.
Ah ouais, comme on dit, vous êtes un grand malade. Il y a une partie de la critique. Ah non, j'ai oublié ça. Vous dites aussi que la vérité sur l'affaire Harry Kéber, quand vous avez commencé l'écriture, vous ne saviez pas s'il était coupable ou innocent.
Absolument. Mais pareil. Je fais toujours la même chose. Parce que si moi, je ne sais pas, je me dis, voilà, au moins, je suis certain d'être pris par cette histoire. J'ai envie de savoir. Et je trouve que cette envie de savoir, pour moi, c'est un bon moyen de savoir si ce livre marche, si ça va, si ce que je raconte a du sens.
Ouais. Y a une partie de la critique qui vous classe parmi les auteurs populaires et faciles. Le Monde n'a pas été très gentil. Vous étiez chez Ruquier samedi soir dans On n'est pas couché. Ils ont passé une grande partie de leur temps d'antenne à vous parler de cette question de légitimité. Comment vivez-vous cet éternel procès ?
Ah, je le vis bien parce que là, vous parlez de deux critiques ou trois et pas de toutes les autres
c'est
qui
vrai.
Sont très bonnes.
Vous savez quoi ?
Et donc voilà, vous savez, quand vous vendez beaucoup, beaucoup de livres, il y a évidemment des gens qui aiment, des gens qui aiment moins, et c'est leur droit aussi.
Et je vais quand même dire, parce que la presse vous encense normalement, vous avez fait la une de lire, le Parisien vous a encensé, le Figaro, qui a souvent la dent très, très dure contre les écrivains, écrit ceci sur votre roman. Une fois ouvert ce pavé de presque 600 pages, on plonge dedans comme dans une série, les pages défilent, rythmées par des dialogues nerveux, liaisons secrètes, rendez-vous ratés, coups de théâtre, jeux de dupes et vie parallèle. Le suspense croustille à chaque page, on est tour à tour dépaysé, éreinté et captivé. Voilà, je voulais le dire. Aussi, je me demande toujours pourquoi le mot page-turner en France est péjoratif.
Mais je ne sais pas pourquoi, parce que c'est tout le but d'un livre, c'est
oui.
de le lire.
C'est qu'on tourne les pages plutôt qu'elles pèsent comme du plomb, tellement on s'emmerde et je suis poli. L'énigme de la chambre 622, c'est chez De Fallois Éditions. Merci beaucoup Joël Dicker d'avoir
Merci
été avec
vous.
Nous
Merci
en direct
beaucoup.
Sur Europe non confinée.
À suivre nos indispensables avec les 20 ans du groupe Gorillaz et des jeux vidéo comme Animal Crossing ou Fortnite qui deviennent de nouveaux médias. On en parle juste après ça sur Europe 1.